Bonsoir à tous. Voilà, cette fois-ci, j'ai essayé. Je vais un peu ébaucher un sujet quand même assez large. Et j'ai prévu pour quelques ouvrages à ce sujet. Enfin, qui parle de la vie du couple en général, parce qu'on ne peut pas exclure la communication d'une vie plus globale de la vie à deux. D'accord ? Bien. Alors, voilà ce que je vais faire. Ici, voilà ce que je propose de faire. C'est, je vais commencer par lire une communication entre dans un couple. D'accord ? Puisque si on est d'accord qu'il est important de se parler. La question, c'est comment faire, mais surtout, qu'est-ce qui est normal? Alors, c'est l'un des deux arrive en retard et dit lundi. Celui qui attend le conjoint dit « Tu es encore en retard ?» Et l'autre répond « J'ai une urgence de dernière minute au bureau. Tu aurais pu me téléphoner au moins pour m'en avertir. » L'autre donc, on voit bien, exaspéré, dit, je viens de te dire que j'ai eu une urgence, je ne veux pas t'appeler. En plus, au retour, il y avait une circulation épouvantable. En soupirant, ce n'est pas la première fois que tu me fais ce coup-là. Tu es toujours en retard. Allons donc, c'est pas vrai, ça arrive très rarement. Au contraire, ça arrive de plus en plus souvent. Est-ce que c'est de ma faute si mon patron me donne un dossier au genre à la dernière minute? Je te rappelle que nous avons besoin de mon salaire pour vivre. C'est ça, ton patron est plus important que moi. Mais qu'est-ce que tu dis là? T'exagères encore comme d'habitude. Comment veux-tu que je te fasse confiance? Tu me prends pour qui? Quelqu'un qui n'a rien d'autre à faire que de t'attendre? Bon, c'est reparti. C'est ta faute aussi. N'essaie pas de te dérober. Quand vas-tu enfin tenir compte de moi? D'accord? Bon, ça vous est pas étranger. Ah, voilà, vous connaissez bien ça, ce type de... Voilà. Pourtant, ils sont en situation de communication. Ils communiquent. Ah si, ils se donnent des informations. Mais ici, la communication n'apporte pas quelque chose d'étayant. Donc, et puis, c'est ça le paradoxe, c'est que on a écrit beaucoup de livres, des centaines de livres et d'articles sur la communication, d'accord? Pourtant, les individus, d'accord, et les couples, d'accord, continuent de connaître des difficultés de communication. C'est peut-être parce qu'il y a quelque chose d'impossible. Peut-être qu'il y a des fausses croyances, peut-être qu'il y a des illusions. En tout cas, on pourrait penser que, compte tenu du nombre de livres et d'écrits à ce sujet, les uns et les autres ne devraient pas avoir de problème de communication. On ne devrait pas avoir de problème de communication avec notre collègue de travail. On ne devrait pas avoir de problème de communication avec nos enfants, en particulier nos ados. On ne devrait pas avoir de problème de communication avec nos parents. Et en commun avec nos conjoints. Pourtant, la problématique demeure. Ah, bien sûr, on a dit, avec un peu de bonne volonté, on y arrive. Il faut se parler. Et puis, on connaît des couples qui se parlent, mais qui ne communiquent pas pour autant. Donc, on voit bien que cette question de la communication est quelque chose qui va avoir du registre un peu paradoxal. Et pour compliquer les choses, il y aura un style de communication au masculin, un style de communication au féminin. Alors là, on n'est pas sorti de l'auberge. J'ai envie de dire, si on n'est pas plus souvent en conflit, c'est qu'on a de la chance devant la difficulté que ça représente. Parce que c'est vrai que longtemps, on a pensé, et on a pensé que... En améliorant la communication dans le couple, ça permettrait de gérer les conflits, voire de les faire disparaître. Cette représentation, cette mise en avant de la communication, est venue dans un contexte. Pas l'oublier. On est sorti de la société du devoir à la société du droit. On est passé d'un système patriarcal à une posture de partage de la vie à deux. Bon, eh bien, ces éléments de changement vont faire apparaître, c'est simple, quand on était dans le patriarcat, il y avait une façon de communiquer qui consistait à donner des ordres. C'est ce qu'on appelle des injonctions. On donne des ordres à ses employés, on donne des ordres d'accord à ses enfants, on donne des ordres à son conjoint, on donne des ordres à sa femme, enfin bref, on donne des ordres. Et l'autre n'a pas à penser, d'accord ? Il n'a qu'à obéir. Et c'est normal parce qu'il n'est pas sujet, qu'il n'est pas individu. D'accord ? Et la notion de sujet est venue, n'oubliez pas, je crois vous l'avez peut-être dit, si je ne l'ai pas dit, eh bien, voilà. C'est venu après un constat. Le fait de devenir sujet n'est pas une mode. C'est la conséquence de l'échec d'une façon de penser qui était la façon de penser à la fois du patriarcat et qui va trouver ses limites après la Deuxième Guerre mondiale, enfin, au cours de la Deuxième Guerre mondiale, je devrais dire. On ne se rend pas compte de ce que ça a bouleversé dans l'ordre du monde en Occident, mais c'est pourtant quelque chose qui va bouleverser l'ordre du monde, en tout cas en Occident. C'est que pour la première fois, on va être confronté à la gratuité du meurtre. C'est la Shoah, c'est les camps de concentration. C'est quand on reprend le procès de Nuremberg, on a Eichmann qui dit, moi j'ai rien fait, j'ai fait qu'obéir. Je n'ai fait qu'obéir aux ordres. C'est pas tout à fait faux. Puisque le système, c'était, tu n'avais pas à penser, on ne te demandait pas ton point de vue, ce qu'on te demandait, c'est d'être efficace dans la réalisation, dans l'ordre qu'on t'avait donné. Donc, tout d'un coup, l'Europe, et pas seulement l'Europe, prend conscience de la limite de cela. Donc on va modifier la façon de rentrer en relation dans la société. Et c'est après cela qu'apparaît le sujet, mais d'abord le sujet victime. Pour la première fois, dans ce qui est connu dans l'histoire de l'humanité, on prend en compte la parole des victimes. Jusque-là, les victimes étaient des victimes voulues de Dieu. D'ailleurs, c'était la volonté de Dieu qu'ils soient victimes. Donc, ils n'avaient rien à revendiquer, d'accord ? La position même de victime, on était victime par le destin, par la force des choses, par la volonté de Dieu. Parce que comme on le proposait dans la culture grecque, il y avait la race des seigneurs et les autres. Et l'Occident était très influencé par la philosophie grecque. Et on le voit aussi de notre façon de lire le texte aussi, hein, par cette influence. Bon. Tout d'un coup, la victime, on l'écoute. On dit, racontez-nous ce qu'on vous a fait, même s'il n'arrivait pas à raconter. C'est la génération d'après, hein, les générations d'après, qui ont commencé à en parler. Mais ceux qui l'ont vécu, l'innommable, l'indicible, ne peuvent pas parler. Mais n'empêche, officiellement, avec Nuremberg, avec l'émergence du crime contre l'humanité, on donne au sujet une place. L'individu peut exister, reconnu dans ses besoins, reconnu comme une personne à part entière, et non pas une demi-portion de ceci ou de cela, mais comme un individu ayant un destin propre, ayant un désir propre. Eh bien, cette façon, cette émergence va changer la relation entre les êtres humains, que ce soit dans la sphère professionnelle, dans la famille et dans le couple. Donc à ce moment-là, la communication sortie de la position de victime, par le « je t'écoute », on comprend pourquoi on a commencé à réfléchir sur la meilleure façon de communiquer. Donc, et au fur et à mesure, on a pensé donc que cette façon de communiquer éviterait la violence. Ce qui n'était pas tout à fait faux. Parce que lorsque l'individu n'arrive pas à élaborer sa pensée et la mettre en mots, alors il a recours à l'acte pour remplacer l'élaboration du langage. Donc, et le passage à l'acte est toujours violent. Donc il y a quelque chose de juste quand on a voulu mettre en mots, mettre en musique la pensée par les mots et des mots travaillés qui est de l'ordre de la communication. Alors après la communication, on va envahir tous les domaines. La publicité, c'est la communication. Maintenant, on a le spécialiste de la communication politique. Hein? Avec la guerre, on s'est rendu compte des effets aussi, des images qui traînent par-ci par-là avec Hiroshima et Nagasaki. Et on va commencer à contrôler la communication. Donc, quand ce dont on va parler aujourd'hui, et là où nous en sommes aujourd'hui, et c'est dans ce grand contexte, dans ce contexte historique, hein, qui est quand même récent par rapport à l'histoire du monde et même l'histoire actuelle, c'est récent, hein, c'est pas très loin, c'est la fin de la guerre, c'est pas si loin que ça. Donc la communication va donc prendre un autre sens. Parce que le mot, l'idée de communiquer existait déjà bien avant. Mais on n'utilisait pas le mot communiquer. On utilisait le mot communier. La communication est venue, bon, on connaît bien les techniques de communication, Shannon, tout ça, c'est récent, c'est les années 50. Hein, tout ça, ce travail date des années 50, c'est pas vieux. Bon, mais la question c'est, qui s'est souvent posée, c'est qu'est-ce qui fait qu'on communique mal, premièrement? Existerait-il une bonne façon de communiquer? Si oui, alors comment bien communiquer? Donc, on a cette dichotomie suivante au niveau culturel autour du mot de la communication et en particulier dans le couple. Bon, si on a fait ce constat qu'il faut donner la place, il faut donner la parole à la victime, au sujet. Mais c'est pour qu'il dise quoi? Le sujet, quand il parle, c'est pour dire ce qu'il ressent. Comment il vit les choses. Comment il se sent dans la situation. Et il attend implicitement qu'ayant dit les choses, que celui qui est en face, que l'autre, acte, prenne conscience et modifie, d'accord, sa façon d'être hein, pour faire disparaître le conflit. Dans cette perspective-là, bien communiquer était un but en lui-même. On pensait alors qu'il suffisait de bien communiquer pour que l'entente soit parfaite. Et on en est même venu à penser que si on est en conflit, c'est parce qu'on communique mal. Et qu'on sort du conflit en communiquant mieux. Cela n'est pas très juste aujourd'hui. Parce que la communication va être isolée des autres éléments qui participent à la vie quotidienne dans la relation et qui participent à la vie quotidienne dans le couple. Donc, on s'aperçoit aujourd'hui que la communication n'est certainement pas la panacée pour tous les couples en situation de mésentente et de conflit. En fin de compte, on s'aperçoit que quand la communication est dite mauvaise, elle n'est qu'un symptôme. Elle révèle quelque chose qui est ailleurs. La communication devient alors un langage pour dire quelque chose, hein, une difficulté ailleurs. Ça peut être une difficulté personnelle, on verra, c'est souvent ça. Et la difficulté personnelle peut aller jusqu'à la difficulté identitaire. Mais aussi, la communication va révéler aussi, la mauvaise communication, toutes les difficultés qu'on rencontre pour construire du lien. Parce qu'on se rappelle, je l'avais abordé, le quitter, hein, pour Dieu, on quitte pour s'attacher. Et pas pour cohabiter. Et s'attacher, d'accord, créer du lien, va demander, c'est vrai, de savoir communiquer, mais va révéler en même temps toute la difficulté de cette activité, indépendamment des individus. Alors que quand on communique mal, quand la communication n'est pas, on dit toujours, tout de suite, c'est la faute de. C'est la faute de. En fait, ce que j'essaie de vous dire, dès lors qu'on le projet, c'est de construire du lien, de s'attacher, alors l'attachement va demander une mise à distance et non pas, c'est ce, d'accord, que j'appelle la diffusion et non pas la fusion. Eh oui. Oh, la diffusion. D'accord, la mise à distance. Or, dans notre représentation du lien, de l'attachement, nous avons une représentation fusionnelle du lien. Parce que c'est comme ça qu'on a démarré nos premiers liens d'attachement, par la fusion. On pense que la communication aurait pour mission de recréer de la fusion. Or, pour bien communiquer, il faut de la diffusion. Ça, c'est pas beau pour nous. C'est pas du tout ce qu'on veut. Ah, pas du tout, pas du tout. La diffusion est nécessaire pour communiquer. À cause de la à cause du Seigneur qui nous casse un peu les pieds, hein, d'accord avec ça. Je dis ça gentiment, hein, c'est pas un manque de respect. C'est que il nous a demandé de faire. Il n'est pas bon que l'être humain soit seul, donc il faut qu'il soit en relation. Et dans leur couple, l'attachement. Mais il nous l'a placé dans un contexte d'altérité. Vous vous rappelez, je vous en avais parlé. Il va nous le placer, on devra faire tout ça avec de la différence, le principe de la différence. Et si c'est de la différence, ce n'est plus de la fusion, c'est de la diffusion. Or, et en plus, pour compliquer les choses pour nous, hein, d'accord, je dis un petit peu ce que j'observe un peu ça et là depuis des années en accompagnant les couples dans le milieu chrétien, c'est que les couples des milieux chrétiens aujourd'hui ont un problème, un gros problème, c'est qu'ils sont porteurs encore de la représentation, de la façon d'être en couple des grands-parents et de nos parents, et ça, c'est des morts définitivement. C'est impossible de créer du lien, de s'attacher comme le faisaient nos grands-parents et nos parents. C'est terminé. Et pourtant, nous nous accrochons à cette image. Les couples chrétiens d'aujourd'hui doivent inventer la manière de s'attacher. On ne peut plus répéter. Ça tient à une seule petite chose, hein, c'est l'allongement de l'espérance de vie. On vit trop longtemps, la moyenne 80 ans, pour vivre comme nos grands-parents qui mourent à 60 ans étaient des petits vieux, d'accord, et qui pouvaient faire l'économie de l'attachement parce que la mort était vite là. Ce n'est plus possible. Avec l'allongement de l'espérance de vie, on est obligé de repenser le lien et la communication dans le couple. C'est intéressant parce que Dieu ne nous a pas laissés sans moyen. Vous vous rappelez? Je vous l'avais déjà dit la dernière fois. Le projet, c'est faire en sorte que l'autre devienne auteur de lui-même. Voilà le sujet. Donc le but de la communication va participer à ce but de l'attachement, c'est aider l'autre à devenir auteur de lui-même. Je vous avais dit que ce mot était utilisé pour Adam et Ève, mais aussi pour Jérémie et pour Abraham. Quand Dieu lui dit, de le ventre de ta mère, je t'ai connu, le verbe connaître, qu'on a traduit par connaître. Eh bien, je t'ai rendu capable de devenir auteur de toi-même dans ta vocation. Il me semble que c'est à partir de ça que les couples chrétiens aujourd'hui ont besoin de penser la communication dans le couple. Les hommes comme les femmes. Pour vous donner un exemple, une idée du changement, c'est quand on gagne un trimestre par année d'espérance de vie, d'accord, hein? Et quand on le met à l'échelle de la journée, eh bien, on a la chose suivante. Un enfant qui naît demain a 10 heures d'espérance de vie de plus que l'enfant qui est né aujourd'hui. 10 heures. 10 heures d'espérance de vie de plus. Vous montrez combien les choses ont changé. Et on ne peut pas penser la communication et la vie dans le couple sans prendre en compte cette dimension-là. Notre psyché est marquée. On a conscience que ça va être long, très long. Et qu'il ne faisait pas la peine d'attendre la mort. On va attendre trop longtemps. À une époque, on pouvait attendre que la mort serait là pour nous délivrer des choses. J'ai envie de dire, l'humour de Dieu aujourd'hui, c'est qu'on est condamné à construire du lien. D'accord? On ne peut plus se permettre d'être paresseux et de ne rien faire. C'est plus possible. Quand on voit dans la génération de ma grand-mère, ma mère, c'était déjà différent, mais un peu avant, hein, d'accord? Le mariage à une époque était récente. C'est pour ça que nos parents sont marqués par ce mode de communication. Parce que le mariage était davantage un contrat d'alliance entre deux familles, d'une part, et qui aboutissait à une forme d'organisation de la vie du couple, de la vie sociale aussi, qui assure la procréation. Autrement dit, on se mariait pour faire des enfants, même si ce n'était pas le but que Dieu nous avait donné. Mais dans une époque où la mort était proche, comme dit l'historien de l'Académie des sciences, René Raymond, il disait que le cimetière était au milieu du village, que la mort était au milieu de la vie. Et c'est vrai. D'accord? Donc, cette conscience de la mort faisait que, bon, il fallait procréer, d'accord? Déjà, il y en a plein qui mouraient très jeunes, pour en avoir quelques-uns qui arrivent à l'âge adulte. Hein? Bon. Et puis, surtout, on faisait pour la procréation, mais aussi pour distribuer du patrimoine. Et donc, conserver le patrimoine sans que les deux conjoints aient une grande obligation de relation. Enfin, de relation amoureuse. D'accord? Il suffisait de se comporter. Hein? On était de l'ordre du comportement. Hein? Avoir le comportement attendu par la société, ça suffisait. La seule obligation qu'ils avaient, qui était implicite ou officielle dans le contrat, c'est l'obligation de la relation sexuelle. On voit avec tout ce que ça représente. Bon. Le problème se pose différemment de nos jours. D'accord? Parce que le couple se choisit par amour et puis, dans le lien du couple, on a une exigence d'intimité beaucoup plus grande. Et le couple aujourd'hui, on lui demande de fournir un ensemble de choses, puisqu'il va vivre plus longtemps, il a plus de temps. Ben oui. C'est logique. Bon, alors on lui demande de se faire objet, qu'il soit objet de désir sur le plan affectif. Donc, on rentre en couple aujourd'hui pour vivre une histoire d'amour et pour qu'elle dure. Enfin, on essaye de faire en sorte qu'elle dure. Et puis, on nous demande dans le couple aujourd'hui que l'amour soit passionnel, qu'il y ait de l'amour passion. Si c'est fade, la routine et la longueur de la vie, hein, vous engloutissez ça tout de suite. Hein, bien plus vite qu'on ne pense. Hein. Ensuite, qu'il y ait de l'amour tendresse, qu'il y ait de l'amitié dans le couple. Qu'on soit aussi amis. On nous demande aussi une connivence intellectuelle. Donc, je me marie avec toi pour que tu m'enrichisses intellectuellement un peu quand même. Hein, pour que je ne sois pas plus bête que je l'étais tout seul. Bon. Ensuite, on me demande de partager le partage du travail. D'accord? L'éducation en commun des enfants. Les enfants ont besoin de père, on vous le dit. Ce n'est pas seulement le boulot de la mère. Hein, alors que sous le patriarcat, on s'était réparti les choses. Plus aujourd'hui. On vous dit, et c'est vrai, puisque les statistiques le montrent, dans la situation de monoparentalité, quand on prend une échelle de 10, 6 délinquants sur 10 viennent d'une monoparentalité. Donc où il y a en général la monoparentalité et souvent avec la mère. Donc ça dit quand même l'importance d'un investissement commun dans l'éducation des enfants. Et puis, à cela on va ajouter en plus... Au niveau de la sexualité, l'obligation de jouissance. Et avec tous d'accord, non seulement si on est affectif, on doit faire tout ça, mais aussi dans la sexualité, je dois tendre mon pied, et tous les deux. Ben oui, vous comprenez pourquoi? Et tout cela, on le fait dans un monde réglementé et compartimenté. Le monde est réglementé, puisque dans la famille, la loi est venue dire, il y a les droits de l'enfant, il y a les droits de la femme, il y a le droit de chacun, individu, ok, l'interdiction du viol dans le couple, etc. La loi vient réglementer tout ça, hein. Et la loi vient dire quelle est la distribution de la responsabilité parentale. On n'est plus dans la puissance paternelle depuis les années 70. Depuis 70, on est dans l'autorité parentale, partagée. Donc, c'est pour ça que je vous ai dit, le couple de nos parents et de nos parents, nos grands-parents, sont morts. C'est terminé, on ne pourra pas les ressusciter. On vit trop longtemps et ils ne passeront pas la baille. D'ailleurs, la moyenne de... C'est intéressant parce que la moyenne... les études montrent que la moyenne de la vie, la moyenne de vie, durée de vie du couple n'a pas changé du patriarcat à la société du droit, d'accord, entre le devoir et le droit. La moyenne, c'est 13 ans. C'est seulement la fin qui change, d'accord. Tout le patriarcat, c'était la mort qui réglait la chose. Dans la société du devoir, c'est la mort. Un couple vivait en moyenne, la moyenne, c'était 13 ans, pas plus, la durée de vie. Aujourd'hui, c'est encore vrai. C'est 13 ans. Mmh. C'est pareil, étonnant. Hein? C'est pour cela que les chercheurs, c'est intéressant parce qu'ils vont vérifier sur le terrain si certaines de nos croyances sont justes. La moyenne, hein? Aujourd'hui, c'est 13 ans. Et c'est vrai. Dans la clinique, dans l'accompagnement, quand les gens viennent demander... sont en difficulté dans le couple, je leur demande, vous êtes mariés depuis combien de temps? C'est la moyenne. Posez-leur la question. Depuis quand, combien de temps vous êtes mariés? Vous allez voir, c'est la moyenne. C'est au bout de 10, 12, 13 ans, hein, c'est autour de ça, que commence à dire, oh là là, ça fait trop longtemps, et j'ai pas ce que je voulais, mes attentes ne sont pas satisfaites. Donc, du coup, c'est la moyenne, en fait. Amusez-vous à ça, vous allez voir. Demandez-leur depuis quand ils sont mariés, vous avez facilement la dizaine d'années. Donc, et c'est compartimenté parce que il y a le boulot, il y a ceci, il y a cela, il y a, hein, on passe d'un monde à l'autre. C'est pour ça que c'est compartimenté. Hein? Il y a plein d'activités autour, individuellement, qu'on doit faire hein, et qui vont influencer sur le couple, le lien du couple. Alors, on comprend alors pourquoi, du coup, que la qualité de la communication dans les couples est insuffisante. C'est pas parce que c'est pas qu'elle soit, elle est parfois mauvaise, mais globalement, même quand elle est bonne, elle est insuffisante. Elle est insuffisante dans ce qu'on nous a appris, d'accord ? Ce qu'on a nous a donné au départ. Pour l'améliorer, il faut travailler la communication de couple. Il n'y a pas d'autre chemin que de se prendre par la main et de faire des actes volontaires pour améliorer la communication dans le couple. Je vous disais que c'est insuffisant parce que nous venons d'une histoire familiale et la position de l'enfant fait que l'enfant reçoit que des injonctions de ses parents. Fais ceci, fais cela, fais ceci, fais cela. Que fait-on avec notre conjoint? Comment on s'adresse? On lui dit quoi? Tu n'as pas fait ceci, tu n'as pas fait cela, tu aurais pu faire ceci. C'est pour ça qu'elle est insuffisante. Celle qu'on a reçue de nos parents, de notre position d'enfant, est une communication qui pousse à donner des ordres. De temps en temps, les parents prennent le temps de l'échange. Mais il y a tant à faire qu'on n'a pas ce temps pour tout le temps. Il faut être honnête, malgré notre bonne volonté. Le temps passe vite, on a ceci à faire, on a tellement d'exigences dans la vie sociale que... Et bien sûr, le travail se taille une grosse partie, hein, qui envahit de plus en plus hein, l'après-boulot. Hein, bon, eh bien, c'est bien qu'on n'a pas le temps, d'accord, de proposer à nos enfants, véritablement, malgré notre désir, de façon régulière et répétée, une communication plus enrichie. Ça ne nous est pas toujours possible, malgré nos bonnes volontés. Et quelquefois, d'ailleurs, ça fait l'objet de culpabilité. On se dit, mince, hein, je ne passe pas assez de temps avec mes enfants, je cours tout le temps. On entend les parents le dire. Donc ça, c'est une réalité qu'on ne peut pas nier. Du coup, quand on arrive dans le couple, on a un niveau de communication au niveau de la qualité qui est insuffisante pour permettre de construire du lien d'attachement. C'est un constat. Donc ce constat n'est pas lié aux personnes, mais à la situation dans laquelle le couple évolue aujourd'hui. J'espère en disant ça, déculpabiliser un peu les uns et les autres. Parce qu'on le connaît. Alors, vous avez, on connaît tous ces couples qui sont capables de transmettre une grande quantité d'informations sans pour autant avoir une bonne communication. Parce que dans notre présentation, on se communique pas, c'est qu'on ne se parle pas. Mais ne pas se parler, c'est aussi une façon de communiquer. Puisqu'on... C'est la systémique qui nous l'apprend, hein, et en particulier Paul Watzlawick qui nous dit... On ne peut pas ne pas communiquer. On ne peut pas ne pas communiquer. Donc, quand les gens me disent, d'accord, on ne communique pas, il y a un manque de communication, je sais que je demande, qu'est-ce que tu entends par là? Puisque ce n'est pas possible de ne pas communiquer. Même quand on ne parle pas, on communique. La communication est à la fois verbale et non verbale. Mais la question qui va se poser ici pour les hommes, comme pour les femmes, c'est que quand je veux construire du lien et que je me trouve en situation de communiquer, qu'est-ce que cette situation de communication va réveiller en moi, en tant qu'individu? Parce que ce que j'ai observé, c'est que beaucoup de gens communiquent, soit de façon verbale ou non verbale, dans le couple, pour se défendre contre la communication qu'ils redoutent. Si ça marche avec le collègue de travail, si ça marche avec la voisine, on peut parler de l'appui du bouton, parce que là, le but, ce n'est pas de l'attachement. Bon. C'est dans d'autres espaces, ça ne marche pas dans le couple quand il faut s'attacher. Et qu'il faut en même temps être mari-femme, des amis, parce que ça... L'ouvrage est sorti la semaine dernière. Et c'est les neurosciences qui nous l'apprennent au niveau du fonctionnement du cerveau. La neurobiologie s'est rendu compte que si un couple ne développe pas un lien d'amitié, c'est un couple qui va mourir et qui meurt, même si on reste sur le même toit. Pour être en couple, il faut qu'on ait une passion commune. Il faut que le couple se trouve une passion commune. Le cerveau ne marche pas, ne produit pas l'hormone d'attachement qui est l'ocytocine. Qu'on va retrouver d'ailleurs à l'accouchement dans la relation mère-bébé. Hein? L'ocytocine augmente. D'accord? Les hommes et femmes ont de l'ocytocine, hein? Je vous rassure. Hein? D'accord? Bon, hommes et femmes ont de l'ocytocine. Et à l'accouchement, dans la relation mère-bébé, le taux d'ocytocine augmente, ce qui est une hormone qui est un transmetteur dans le cerveau, d'accord? Et fabriquée par le cerveau en grand nombre pour faciliter l'attachement mère-bébé. Et là, le taux va diminuer 100 jours après la naissance. Moi, je trouve ça fantastique. À chaque fois, Dieu nous donne un petit coup de main biologique, créationnel, pour nous mettre sur orbite, et après dit, le reste marche. Pour le salut, c'est pareil. Il nous donne un petit coup de main. Il nous a donné d'ailleurs un gros coup de main. D'accord? Il s'est incarné. D'accord? Il est ressuscité, il a triomphé, il est venu le faire connaître. Et après, une fois qu'on le sait, hé, la suite, c'est bien nous qui devons travailler à ça. C'est ce qu'on dit Paul. Travailler à votre salut. Donc, on a besoin, avec la communication, comme un outil, un des outils, pour travailler à l'attachement, pour que le taux d'ocytocine reste élevé dans le cerveau, chez les deux. L'ocytocine étant l'hormone d'attachement. Petit rappel, quand on s'est choisi, au départ, au moment de la rencontre, il y avait déjà l'ocytocine, hein? Mais Vous voyez quelque chose? Pas grand-chose? Il faut que j'appuie un peu plus fort? Là, ça va mieux quand même, hein? Voilà. Permettait de choisir le bon, la bonne. Et c'est pas tout. On avait aussi une augmentation de la sérotonine. Qui éprouve du plaisir à être ensemble. On avait aussi la dopamine aussi. Tout le cocktail. Et aussi l'ocytocine. Voilà le cocktail amoureux. Et les productions augmentent seulement quand on est amoureux de l'autre. Ça pose la question du choix. Si je me marie parce que ça fait trop longtemps que je suis à la maison, mes parents me cassent les pieds, j'ai envie d'aller chez moi. Si je me marie parce que j'ai pas envie de rester tout seul, si je... eh bien, vous aurez un faible taux de cette activité hormonale. Ah, j'ai dit, Seigneur a plus de tout dans son sac. Pas moyen de tricher. Il est amour. Le lien qu'il veut qu'on construise, c'est un lien d'amour. Alors là, on a besoin d'aimer l'autre pour que ses taux augmentent. Et l'ocytocine, qui est l'hormone d'attachement qui nous permet de nous attacher, eh bien, il nous faut faire en sorte que son niveau reste suffisamment haut pour qu'on reste attaché. C'est la recherche qui le montre hein, au niveau du cerveau. On voit bien, c'est plus seulement une question de morale, d'accord ? Seulement une question de volonté de l'individu. Il faut vraiment vouloir rester attaché pour qu'on le soit. Je suppose que dans l'attachement avec le Seigneur aussi, l'ocytocine doit forcément jouer. Et ça marche parce qu'on veut s'attacher à lui. On veut communiquer avec lui. On veut lui parler. D'accord ? Alors, il y a des moments où on ne fait pas tout le temps. Et c'est normal. Ça crée du manque. Et le manque nous rapproche. Et pas la carence. La carence nous éloigne, mais le manque. Et ça nous manque. Et quand ça nous manque, on se retrouve. Bien. La communication participe à ça. Au fait que, pour m'attacher, j'ai besoin obligatoirement d'accepter de communiquer avec mon conjoint. Mais, hommes et femmes redoutent la communication dans le couple. Mais ils redoutent, non pas parce qu'ils ne savent pas. Ce qui vient influencer la communication dans le couple, ce sont nos expériences précédentes de communication. Comment, d'accord, on a appris à communiquer dans la famille, et qu'est-ce qui s'est passé pour nous, en tant qu'enfants, ou dans nos relations avec nos copains, lorsqu'on a osé dire la vérité. Quand on a osé être authentique, est-ce qu'on s'est pris une veste, une rouste, enfin bref, on peut l'appeler comme on veut, eh bien, ces expériences négatives vont nous générer de la méfiance. Et c'est normal. Seulement, nous avons besoin de différencier les contextes. Les deux, ce mode de communication doit fonctionner dans le monde du travail, dans le monde social. C'est-à-dire, on a besoin de garder cette expérience-là sur la modalité sociale, mais on ne peut pas la maintenir dans le couple. C'est impossible. Or, qu'est-ce qu'on fait ? On généralise. Donc, c'est un acte volontaire. Hein. Parce que la situation de communication, même dans le couple, va soulever des peurs chez chacun. Et de quoi a-t-on peur ? Dites-moi. C'est évident. De quoi ? Qu'est-ce qu'on, quand on est en couple et qu'on communique, on communique avec le conjoint, qu'est-ce qu'on redoute le plus ? Précise l'attitude. Le rejet. D'accord ? On a peur qu'il nous rejette. Il y a un problème. Parce qu'on a peur que notre ami nous rejette, on a peur que nos parents nous rejettent, on a peur que notre conjoint nous rejette. Et le conjoint, on l'a choisi, dis donc. Vous ne trouvez pas qu'il y a quelque chose qui ne va pas ensemble ? Ça ne va pas. D'accord ? Ça ne va pas. Donc on voit bien qu'on a besoin d'y travailler. Ça ne va pas de soi. Hein? On est obligé d'y travailler. On a peur du rejet, c'est vrai, parce que communiquer avec notre conjoint soulève des peurs, parce qu'on s'expose, on expose sa personne. Et donc c'est bien le climat, c'est-à-dire le contexte, qui est l'amour, qui devrait nous donner ce courage. C'est parce que je sais que tu m'aimes que j'ai le courage de penser que tu ne vas pas me rejeter, que tu ne vas pas me blesser. C'est pour cela qu'on a besoin de différencier, communiquer et dialoguer. Ce que je vous ai lu tout à l'heure, c'était une communication. Mais ils ne dialoguaient pas. Parce que la communication, dans la visée de dialoguer, a un but, c'est d'entendre l'humanité de l'autre. C'est d'entendre son humanité. C'est reconnaître que c'est un être humain comme moi. Bon, Jésus avait une drôle manière de communiquer à ses disciples, si bien qu'il ne comprenait pas grand-chose. Hein, nos fameuses paraboles. Hein? Il fallait bien qu'il fasse un décodeur, un décodage. On voit bien qu'il y a quelque chose de difficile quand même dans la communication. Bon, il comprenait les mots. On peut imaginer qu'il connaissait les mots. Mais agencé de cette manière par Jésus, alors là, on n'y comprenait pas grand-chose. Bon. Bien, c'est bien cet effort. Ça nous demande bien un effort pour saisir quelque chose chez l'autre. Et que fais-je ? Je vais prendre, puisque le but c'est l'attachement, et je vois comment Dieu s'y prend pour communiquer avec nous, pour qu'on reste attaché à lui. D'accord ? Et maintenant que vous me connaissez, j'aime bien faire prendre ce repère-là, parce que c'est le plus haut niveau de performance qui soit. Il n'y a pas meilleure réponse que Dieu ne donne que des réponses parfaites, on le sait. Donc si on regarde un petit peu de plus près, d'accord, comment il s'y prend, on va y trouver, d'accord, quelques petits tuyaux hein, pour nous aider dans la vie de couple. Surtout quand on avait vu la dernière fois, il prend l'image de l'Église et du couple comme métaphore dans sa relation avec l'Église. C'est intéressant quand même. Bon, comment il fait lui? D'ailleurs, il dialogue. C'est-à-dire, même si nous on parle. Il dit, de temps en temps, il dit, écoute un petit peu ce que j'ai à te dire, écoute un peu. Assieds-toi et écoute-moi. C'est de la communication. Écoute ce que j'ai à te dire. Et parfois, on a le conjoint qui dit, mais tu ne m'écoutes pas. Je te parle, mais tu ne m'écoutes pas. Les mots, ça change. Mais voilà. Premièrement, il nous fait connaître ses désirs. On se rappelle que la relation avec lui, c'est une relation d'amour. Rappelez-vous, hein, d'accord, hein, Dieu d'amour. Donc, dans sa relation d'amour, quand il communique avec nous, il nous fait connaître ses désirs. Et Jésus est venu le faire connaître et nous faire connaître les désirs du Père. Le chemin qui mène au Père, pour bien nous éclairer. Bon. Autrement dit, Dieu nous a pas laissé deviner qui il était, puisqu'il nous disait que c'est impossible qu'en tant qu'être humain, on ne sait pas trouver le chemin vers lui. Eh bien, c'est vrai aussi pour notre conjoint. Parce que à cause de l'altérité, hommes et femmes, mâles et femelles et les filles, eh bien, on ne trouve pas spontanément le chemin de la communication avec l'autre sexe. Ce n'est pas vrai. D'où les difficultés qu'on peut rencontrer. D'accord ? Donc, il nous fait connaître ses désirs, ses préoccupations. Il nous fait savoir comment il voit le monde, qu'est-ce qu'il pense de nous, qui il est. Ah, ça fait pas mal quand même, hein, d'informations dans sa communication. Et où cette histoire va nous mener. Il nous donne un but. Il nous donne un projet. Donc la communication ne marche si nous avons, que le couple aussi, un projet ensemble. Il faut avoir un projet. Et on a vu la dernière fois, avoir des enfants n'est pas un projet de couple. Parce que quand les enfants s'en vont, le couple est fini alors. D'accord? Bon. Et le projet, il nous l'a donné déjà, lui, c'est d'aider l'autre à devenir auteur de lui-même, l'aider à s'épanouir. Eh bien, on est dans une réciprocité. C'est autrement dit, chez Dieu, il n'y a pas de tir au flanc. Il n'y en a pas qui fait et l'autre profite. Et il dit non. D'accord, hein? C'est des deux côtés. Il a fait sa part, on fait notre part. Pour que ça marche. Bien. Et il ne fait pas notre place en plus, hein? Mais aussi, il nous fait connaître la place qu'il donne à l'être humain dans sa création. Il nous donne ça. Il nous fait connaître la place qu'il donne à l'être humain dans sa création. Autrement dit, dans sa façon de communiquer avec nous, Dieu répond à notre besoin identitaire. Donc la communication dans le couple doit renforcer la masculinité et la féminité de l'un et de l'autre. C'est ce but. Laisse-moi être femme et laisse-moi être homme, au bon sens du terme. Laisse-moi être féminin et laisse-moi être masculin. Arrête de vouloir que je sois autre chose, un féminin comme le masculin et un masculin comme le féminin. Tu arrêtes un peu. Laisse-moi tranquille. Je dis ça parce que chacun pense que l'autre devrait communiquer à sa manière. Et on va voir que les deux modes de communication sont nécessaires à l'attachement. Il n'y a pas un mode de communication qui est meilleur que l'autre. Les deux sont nécessaires et pour cela, il faut que les deux y coopèrent. La communication, donc, va permettre le dialogue pour que j'ai le sentiment d'être reconnu par mon conjoint, accepté par lui et me confirme à ma place que je suis l'être qu'il chérit ou qu'elle chérit. Eh bien, c'est ça que Dieu fait. Avec la communication, il nous reconnaît. Il nous accepte tels que nous sommes. Il n'essaie pas de nous changer. Il nous donne simplement des limites. Il nous corrige. C'est-à-dire, quand on s'égare un peu, il nous rappelle. Hein, c'est pas là la route. Mais il ne cherche pas à nous changer, au sens nous dépersonnaliser. Il cherche à nous transformer. Et la communication face à l'autre va nous transformer. Et si on joue le jeu, la transformation est toujours positive, elle est toujours à notre bénéfice pour nous construire. Elle est faite pour qu'on soit un peu plus nous-mêmes et non pas nous trahir de plus en plus qui nous sommes. C'est l'inverse. Et on s'est rendu compte que les couples heureux, hein, c'est très intéressant ce psy, que les couples heureux sont ceux qui ont réussi à surmonter les illusions et les fausses croyances qui entourent le couple. Donc, pour communiquer, et tout à l'heure, je vais voir, on verra au masculin, d'accord? Là, je voulais vraiment mettre pour tout le monde. Et en plus, il y a des femmes. Hein. Donc, la communication, les couples qui sont heureux, c'est-à-dire qu'on réussit à être heureux ensemble, sont des couples qui ont surmonté les nombreuses illusions et fausses croyances qui entourent le couple. Autrement dit, pour bien communiquer, si on veut que la communication nous permette de dialoguer, nous attracher, il va falloir laisser derrière quelques fausses croyances et quelques illusions sur le couple. Alors, vous avez des illusions sur l'amour, des illusions sur la sexualité, des illusions sur et des fausses croyances sur les conflits et bien sûr la communication. Et une illusion qu'on a à propos de la communication, c'est l'illusion de l'âme sœur dans la communication. D'accord? L'âme sœur. C'est une illusion. Vraiment une illusion. Donc, si vous cherchez l'âme sœur dans la communication, d'accord, il faut mieux le mettre de côté. Hommes et femmes d'ailleurs. Bon. Parce que l'illusion de l'âme sœur trouve sa source dans le vide existentiel vécu par tous les êtres humains. C'est ce vide existentiel vécu par tous les êtres humains, c'est ce qu'on appelle la solitude existentielle. Celle-là, personne, même la meilleure communication, ne pourra la combler totalement pour nous. Il y a une part dans la relation à l'autre, mais il y a une part qu'on va combler de nous-mêmes. Et c'est là que se trouve toute notre spiritualité. On a besoin de faire vivre notre spiritualité en nous-mêmes, dans la relation au Seigneur, qui va combler une part du vide existentiel et l'autre part dans le lien avec le conjoint. Il faut donc qu'on se prenne un peu en charge. Dans la communication, on se dit, il faut se parler. Alors, s'il faut se parler, puisqu'on reconnaît que la communication est indispensable au bonheur conjugal, on le voit, et pas seulement dans le couple, c'est sûr. D'accord? Malgré les meilleurs outils qu'on a, d'accord? Il faut que chaque couple puisse gérer de lui-même les problèmes de communication qu'il rencontre. Personne ne fera à leur place. Parce qu'en fin de compte, il y a quelque chose d'incommunicable entre deux personnes. D'accord? On a l'illusion parfois de parler de la même chose. D'accord? À plus forte raison entre les hommes et les femmes. Déjà entre deux personnes. C'est pas simple, ma collègue de travail, mon collègue de travail, c'est pas si simple que ça. Mais a fortiori, mon conjoint. Et je peux pas faire l'économie. C'est d'autant plus compliqué. Parce que dans le couple, il y a les attentes sont plus fortes, comme l'investissement émotionnel est plus fort. Et plus l'investissement émotionnel et plus les attentes sont fortes, plus notre communication, telle qu'on la, on s'imagine, n'est pas adaptée. Et plus il nous faut des actes de volontaires pour communiquer. La communication, ça se gère ainsi. Dans le couple, la tendance, vous gérez la communication, on dit aux gens, faites ceci. D'accord? Ça ressemble sur un terrain de tennis, à deux joueurs qui frappent la balle, ils se les renvoient sans cesse. Et celui qui frappe un peu plus fort, gagner le point. Donc on fait un match. Ça ne se gère pas comme ça. Pour bien communiquer, pour améliorer la communication de le couple, il faut qu'on se mette d'accord sur quoi on va avancer. Voilà. Comme ça qu'on gère la communication. On se met d'accord sur quel domaine il est important sur lequel il faut qu'on va travailler à se dire. Bien. On sait d'habitude dans nos cabinets aussi qu'un couple qui n'arrive pas à communiquer sur la sexualité est un groupe qui n'arrive pas à communiquer ailleurs. Bien. Oui. L'objectif, le point à attendre. On va marcher vers ça. Toi, tu t'occupes de marcher vers ça. Moi, je m'occupe de marcher vers ça. Et tu me laisses tranquille. Ah, donne-moi la permission d'avancer à mon rythme. Le tout, c'est que je t'ai dit oui, on est d'accord, et il faut que mon oui, je le tienne. Chacun, on tient son oui, on avance. Depuis l'année dernière, j'accompagne un homme. Hein? D'accord, ils ont à peu près une quinzaine à peu près, autour de ça. Et elle a décidé de s'en aller. parce qu'il en a marre. À côté de ça, c'est un homme très agréable. Donc on va voir bien que ce n'est pas parce que son mari, il n'est pas gentil avec elle. C'est pas, ça n'a rien à voir. Simplement, ce qui la blesse tout le temps, c'est qu'il se referme et il n'échange pas, malgré ses invitations à échanger sur, d'accord, il refuse. Elle en a assez. Elle en a déduit qu'elle ne faisait pas partie de sa vie, que ce n'était pas une personne importante pour sa vie. D'accord? Elle en a fini par croire ça. Donc elle a dit, bon, moi je vais m'en aller. Je ne vais pas vivre avec quelqu'un avec qui, quand on échange, pas on siège autour des enfants, mais voilà, il sort du travail, ceci, il est formé dans sa bulle et il en sort très peu et j'arrive pas à mettre des mots sur le vécu. D'accord? Partageable. Je me souviens d'ailleurs je l'ai eu cette semaine. Mardi, la première chose que je lui ai demandé, je lui ai dit, est-ce que tu tiens à ce lien? Il me dit, mais oui. Et il me dit, mais j'entends ce qu'elle dit. Et c'est vrai qu'il était sincère. Il me dit, j'entends vraiment ce qu'elle me dit. Mais j'y arrive pas. Il m'a dit, les mots ne sortent pas. Les choses ne... Voilà. D'accord? Et dans l'échange, je lui ai dit, est-ce que ça a toujours été comme ça? Il me dit, mais non. Et il me raconte un événement qui est une trahison parentale et qui va l'emmener à se dire plus jamais et s'est refermé comme une huître. Il n'a pas distingué la trahison parentale du conjoint. D'accord? Donc, on a le but du travail, c'était ça. Voilà. Et de lui faire connaître en langage féminin qu'est-ce que ça signifiait pour elle en langage féminin. D'accord? Et peu à peu, il a comme en marche. Ils sont partis en vacances, ils ont fait tout ça. Et quand je l'ai revu en septembre, il m'a dit, eh bien, tu vois, j'ai vécu quelque chose de sympa à mon travail. Que les gens m'ont renvoyé une image de moi extrêmement positive. Et il me dit, eh bien, j'ai partagé ça avec elle. Alors qu'avant, eh bien, j'aurais vécu ça, je le regardais pour moi. Donc, j'ai dit, alors, t'as produit un petit peu d'ocytocine. Parce que je lui ai demandé, dis-moi, quand tu l'as vécu, vivais des choses comme ça, et tu ne partageais pas avec elle, et maintenant que tu as, est-ce que c'est pareil? Comment, quelle trace que ça a laissé après en toi? Comment tu l'as vécu du dedans? C'est une conscientisation beaucoup plus forte des signes de reconnaissance. Le fait d'avoir partagé avec elle sont ces signes de reconnaissance qu'on reconnaissait sa compétence professionnelle. Son collègue lui dit, écoute, quand je te vois, tu es paisible, tu es calme. Je me dis, mais d'où toi ça te vient? Alors, il a partagé au niveau de sa foi, voilà, tout ça. Eh bien, avant, il me dit, je regardais. Eh bien, le fait d'avoir partagé avec sa femme lui a permis de conscientiser et de bénéficier plus profondément de l'expérience. Ça s'est inscrit bien plus fort en lui en termes de signes de reconnaissance. Ça m'a dit quelque chose. Je me dis, il me semble que c'est comme ça que le Seigneur fait. Quand nous partageons les choses avec lui, on ancre plus fortement en nous les choses. Et ça nous fait plus de bien. C'est pour ça qu'il y a l'église. On aurait pu croire tout seul dans son coin, sans problème. Dieu invente l'église pour que ce partage ancre en nous la joie du choix du lien avec lui. Alors quand on sait ça, on se rend compte que quand on partage, il ne s'agit pas de parler pour parler. On comprend alors que le bénéficiaire, c'est nous. Nous-mêmes, finalement, dans l'échange, le partage de quelque chose de vécu. Et il s'est rappelé, il m'a dit, oh, j'ai pensé à ce que tu... Voilà, on a travaillé ça. Et j'ai dit, comment elle a réagi? Elle était contente. Et elle me dit, je crois qu'avec le temps, je le perçois. Hein?
Elle ne parle plus de la séparation, moi.
Et j'ai dit, à ton avis, hein? Si on, quand on ne parle pas de se séparer, hein, on parle donc de s'attacher. Voilà. L'idée de s'en aller. Et pourtant, comme j'ai dit, c'est pour ça que je donne cet exemple, et j'en ai connu d'autres, hein, d'accord? C'est que quand un homme ne communique pas, ce n'est pas toujours parce qu'il refuse ou ça ne l'intéresse pas. Mais la société du 19e siècle n'a pas à véhiculer une image masculine très négative de la communication émotionnelle chez les hommes. C'est le 19e siècle, parce que le 19e siècle était un siècle colonial qui avait besoin de soldats. Donc on a fait des hommes des petits soldats. D'ailleurs, ils allaient faire l'armée pour bien les endurcir. Hein? Allez, c'est quoi cette mauviette là qui pleure et parce que... Hein? Ok? Eh bien, de ce fait, on a même en même temps privé les hommes de quelque chose dont ils ont besoin dans la communication, dans leur couple. Et quand on voit comment Jésus communiquait, exprimait ce qu'il ressentait à ses disciples, même s'ils ne comprenaient pas tout. C'est pas le tout, c'est pas de tout comprendre qui compte. C'est le partage qui compte. Et quand je partage avec l'autre, je fais exister l'autre, je lui dis quelle est sa place. Et non seulement je la fais exister au-dehors de moi, mais je la fais exister dans ma psyché. Quand je partage avec l'autre, je fais vivre de plus en plus l'autre dans ma tête et dans ma psyché. Et dans ma tête et dans ma psyché, je construis de plus en plus le couple moi et l'autre. Bien. Ce qui permet de sortir d'une forme d'égoïsme. C'est-à-dire, ici, je ne parle pas des hommes, hein, je parle des hommes et des femmes, où on peut faire les choses à partir que de soi. D'accord? Bon. Voilà le premier malentendu, la première illusion concernant la communication qu'il faudra mettre de côté, chez les hommes comme chez les femmes, c'est que communiquer signifie me comprendre. J'attends que l'autre me comprenne. Mais c'est impossible. Parce que chaque personne est unique. Et quand je partage avec l'autre, je communique avec l'autre, il n'y a que moi, et seulement moi, qui peut vraiment comprendre ce que je vis. Mais j'ai besoin de le communiquer, de le partager avec l'autre. Parce qu'au moins, je me dis, je ne suis pas fou, je suis tout à fait normal. Ah, toi aussi, d'accord. Ce partage me fait comprendre que ce que je fais, c'est de l'ordre de mon humanité. Et ce n'est pas toujours ma personne qui est en jeu. Mais simplement, mon humanité. Et si c'est mon humanité, alors je ne vais pas m'affubler de critiques inutiles et dire « c'est moi qui ai handicapé d'eux et ceci et cela ». D'accord ? Puisque, en partageant, je retrouve mon humanité. Et je me rends compte que c'est vrai à droite, à gauche. Et les groupes de parole, c'est intéressant pour ça. Quand on fait des groupes de parole autour de thématiques, chaque personne pense qu'il est le seul à vivre ça. Il suffit qu'on échange un peu par des groupes de parole. Ah ben toi aussi, toi aussi, toi aussi, toi aussi. Et le stress baisse, l'angoisse baisse, la normalité revient tout de suite et on arrête de s'auto-accuser. Encore faut-il qu'il faut éviter un outil négatif. Alors, je vais vous donner des outils qui créent, d'accord, des façons d'agir, de faire, des instruments qui ne permettent pas d'avoir une bonne communication. Le premier instrument, c'est le tu accusateur. Tu. Le tu qui tue. Ça, c'est une mauvaise... D'accord? La communication qui humilie. Donc, on provoque l'autre, on l'humilie pour le faire réagir. C'est une mauvaise manière de communiquer. Dieu ne nous humilie pas pour nous faire réagir. Il se rend admirable. Hein? C'est ce qu'il dit.
Je vais l'emmener au désert. Je parlerai à son cœur. Il dira, ah ouais, ma fiancée. Ah, hein, d'accord, hein. Ça marche mieux, la séduction. Bon. Les injonctions. Il faut arrêter de donner des ordres aux conjoints. C'est pas notre enfant. D'accord. La riposte. Ah, tu m'as fait ça. La vengeance est un poids qui se mange froid. Chez nous, on dit, allez, on s'éteint, on vire, on s'éteint, moi. Il n'y a rien de pire pour saboter le partage, là. D'accord? On va laisser ça de côté. Et on va utiliser le « je ». Le « je » n'engage que « je ». Je me souviens pour ce couple que j'accompagnais, d'ailleurs. Ils ont eu beaucoup de mal à cheminer. Ils ont continué comme ça vers leur séparation. C'est qu'ils n'en voulaient pas admettre même l'existence du jeu. Je ne peux parler qu'en jeu. Et je disais, mais le jeu n'engage que celui qui le dit. Et ce jeu a besoin d'être écouté. Ça n'engage que lui. Ça n'engage qu'elle. Ça ne nous donne pas l'obligation de... D'accord ? C'est voilà comment je vois les choses. Voilà comment je ressens les choses. J'ai le droit. Et maintenant, pour terminer, c'est quelle différence y a-t-il dans la façon de communiquer chez les hommes et la façon de communiquer chez les femmes? Et cette différence a une base neurologique. Alors, comme c'est une base neurologique, j'ai envie de dire, il faut aller se plaindre au chef, au créateur, qui a eu cette mauvaise idée de mettre deux bases différentes. Les femmes communiquent, messieurs, quand elles vous parlent, c'est pour échanger. C'est sa façon de vous faire exister dans sa vie et sa façon de vous dire que vous comptez. Quand une femme ne parle plus à son mari, surtout aux Antilles, alors là, les hommes se font tout le temps voir avec ça. Tant que vous êtes, j'ai envie de dire, le roi de son cœur, pour prendre une image, tant que vous comptez pour elle et que là, l'échange, le lien n'est pas satisfaisant, elle va vous casser les pieds par une mauvaise communication, en vous reprenant, en donnant des injonctions, en vous critiquant, en vous menaçant et tout ça. Les menaces aussi, c'est une mauvaise communication. Bon, en tout cas, elle va chercher à vous faire réagir. Bon. Et puis un jour, elle va cesser toute manifestation, toute revendication. Les hommes pensent, ça y est, j'ai fini par obtenir la paix. Elle a enfin compris. J'ai fini par la user. Elle a compris maintenant. Or, pour elle, le silence veut dire départ. Qu'elle vous a détrôné. Alors, de deux choses l'une, hein? J'ai une copine qui a fait ça, il y a quelques années de ça, enfin, pas sûr. Eh bien, elle est... Ce jour-là, elle est partie, sortie plus tôt du travail, tout organisé. Et quand, je les connaissais tous les deux, hein, c'était des amis. Quand il est rentré à la maison, il a trouvé une lettre. Je suis partie voir mon avocat. Pourtant, je lui avais dit. Je lui ai dit, écoute ce qu'elle te dit. Tu restes trop longtemps, tu vis comme si tu n'étais pas mariée, tu pars avec tes copains, les journées dehors. J'ai dit, elle te le dit, il n'y a pas d'enfant, même s'il y avait des enfants. J'ai dit, entends ce que tu as dit. Mais non, lui, il savait ce qui était bon pour elle en communication. Et bien, un jour, il est rentré à la maison. Et c'est pareil, à tous les coups, j'ai ça dans les couples antillais. À partir du moment où elle ne dit plus rien, il dit, ça y est, elle s'est accommodée de la chose. Alors que ce n'est pas vrai, c'est un problème. Elle ne s'est pas accommodée, elle est en train de partir. Elle a décidé de partir, elle n'attend plus rien de toi. Et quand elle est partie, eux, ils se réveillent.
Alors il va lui dire, mais oui, mais c'est trop tard. Ils vont voir les copines, ils vont voir la... C'est trop tard. Messieurs, quand votre femme a arrêté de vous parler, hein, vous dites-vous que vous êtes en danger. Sauf si vous tenez plus dans la relation, il n'y a pas de problème. Hein. Bon, donc c'est un avantage pour vous qu'elle vous casse encore les pieds. Elle communique avec vous pour vous faire exister. Parce que ça, c'est le féminin. Le féminin englobe tout. D'accord? Et c'est comme ça que fonctionne son cerveau. Je pense que c'est lié à la maternité, hein? Au fait qu'elle peut la grossesse. Le fait, la femme met tout ensemble. Elle ne sépare pas. Il y a le mari, elle pense au mari, les enfants, la famille, tout ça, elle-même, tout ça, elle forme tout. Et elle passe de l'un à l'autre. D'ailleurs, on voit bien dans le cerveau, il y a plus de fibres pour la circulation pour ça. Mais je pense que c'est lié à la grossesse. Parce qu'elle doit se rappeler qu'il faut prendre soin du petit. Donc, et puis la grossesse qui est englobante, c'est en soi qu'on se développe les choses. Donc, la femme va utiliser la communication pour échanger. Et dans 80% des cas, c'est elle qui a l'initiative de l'échange. Parce que, dans sa spécificité que Dieu lui a donnée, elle est porteuse. Rappelez-vous, dans Genèse, Dieu le dit. Elle est porteuse du lien. Elle est préoccupée par le lien. Elle est préoccupée par le lien. Donc, elle va vous demander. Elle va venir. Elle est celle dans le couple qui porte du lien. Donc, il va être dans l'invitation de la communication. Et c'est normal. Alors, j'ai dit le principe. Après, vous pouvez vous mettre d'accord sur les temps, les moments, comment on va faire, ça, vous mettez d'accord ici pour avancer vers ça. Mais une femme communique, d'accord, non pas parce qu'elle a besoin de solutions. Et ça, ça a le don de l'agacer, messieurs. Quand elle vous parle de situation de travail, elle n'attend pas une solution parce qu'elle l'a déjà. Et ça le chie de l'énerver. Vous avez remarqué, ça l'énerve. Et le mari ne comprend pas pourquoi sa femme est énervée. Parce que dans son amour de mari, il veut l'aider en faisant. Mais elle, sa communication, c'est pour être avec toi. C'est pour être, pour t'inclure dans son monde. Pour ne pas te maintenir en dehors de son monde. D'accord? Bon. Et c'est ça le malentendu, hein? Alors que la communication, les hommes dans la communication communiquent pour agir en termes d'efficacité, pour faire. C'est pour cela que les hommes donnent la réponse du faire. Mais mesdames, vous n'allez pas pouvoir le changer. Soyez bienveillants envers eux. Prenez le temps d'écouter leurs réponses, éventuellement de discuter de leurs réponses par rapport à la vôtre, mais vous n'allez pas l'empêcher. Un mari qui ne donne pas un conseil à sa femme qui lui parle d'un vécu au travail ou avec les enfants, se sent un mari pas à la hauteur, un mari inutile. S'il vous aime, il va vous donner une solution. Même si vous n'avez pas besoin de ça, mais on ne va pas pouvoir le changer. Et c'est normal. Bien. Les hommes, d'accord, utilisent la communication pour argumenter et avoir raison. Et quelquefois, leur conjoint leur dit, « Ah, mais quand même, tu es de mauvaise foi !» Et moi, j'aime bien. Je donne un exemple très simple. Vous avez un couple qui... D'accord, prend la route. Et j'enlève parfois le GPS, parce qu'il y a des GPS qui nous trompent aussi. Hein? Bon, pas le GPS. OK? Il se trompe de route. Sa femme lui dit, chérie, c'est pas ce chemin-là.
T'inquiète pas, je connais un autre. Il ne connaît pas, hein. Et dans sa tête, il va se dire, je vais en trouver un. Il y a bien une route par là que je... Elle est 6, elle finit par s'énerver. On va être en retard. Bon, mais arrête-toi, demande. Alors là, il ne faut pas demander ça aux hommes. Impossible. Et vous n'allez pas le changer. D'accord, dis-lui, arrête-toi, je vais demander pour toi. Il s'arrête, il vous envoie demander, vous revenez, et puis tout va bien. Un homme, ça ne demande pas son chemin, c'est bien connu.
Eh bien, nous, on ne va pas pouvoir changer cette différence que Dieu a donnée. Je vais faire une petite parenthèse sur nos habitudes de communication dans la culture antillaise. Ce mode de communication est, je vous l'avais dit, influencé par notre histoire. Et la communication a tendance à être agressive, violente, entre parents-enfants. D'accord? Au lieu de lui dire, comme on dit chez nous, gentiment la chose, on communique en étant toujours irrité. Du coup, comme la communication est toujours faite d'agression et d'irritation, l'autre ne peut pas vous entendre. Pas possible. C'est comme si, d'accord, quand il faut, comme on dit, certaines mères, certaines personnes dans notre culture le disent, quand je lui demande quelque chose, c'est comme si je l'invitais à ce qu'on se bagarre. Quand je lui dis quelque chose, c'est qu'on s'y a demandé égoumé. Hein? C'est comme ça qu'on le dit. Parce que la communication est née dans un climat de violence. Et la violence verbale est très forte dans la communication entre parents-enfants et nous gardons cette habitude de la violence de la communication. Dans la communication, ne passe que l'agressivité et la colère, pas la tendresse. Nous calons coller tout de suite. Tout de suite, nous susceptibles, enfin bref, la communication, et c'est pas, et pourtant la personne n'est pas fâchée en soi, mais n'a pas d'autre modèle d'identification. Comme ses parents font pareil, par identification, ils font pareil. Mais en réalité, il faut se déprendre de ça. Quand l'autre nous invite à communiquer, c'est un acte d'amour, c'est pas un acte d'agression contre nous. Et ce n'est pas non plus pour nous humilier. C'est toujours pour le bien du lien. Autre chose dans la communication chez nous, c'est la vitesse à laquelle la mère, hein, le père comme la mère, mais la mère désinvestit très vite la communication d'affect, de tendresse. Et ça, dès que l'enfant rentre à l'école, c'est-à-dire dès l'âge de 3 ans. Quand il commence à marcher, à la période du non, quand l'enfant commence à s'opposer, ses mères s'affolent, ses parents, le père et la mère s'affolent, ils ont peur, ils pensent que c'est une rébellion. D'ailleurs, on aime utiliser ce mot-là. Hein, c'est une rébellion contre l'autorité. Ils n'ont pas compris que c'est une étape normale de développement, la protestation. Et ça les insécurise. Et en réponse de ça, ils vont donner une réponse de dominant-dominé. Et priver l'enfant d'affect, priver l'enfant de manifeste, de gestes dans la communication de tendresse. Ils diront aux autres, ah, j'aime mon enfant, j'aime mes enfants, à d'autres, pas aux enfants. Mes enfants ont besoin de le savoir quand même, hein. Franchement, pas les gens du dehors, hein. Ces parents-là passent le temps à dire aux gens du dehors combien ils aiment leurs enfants, ils sont fiers. Jamais à leur enfant. À leur enfant, il faut... D'accord, les humilier un peu, les malmener. D'accord, mais on arrête quand même. Faut arrêter.
sous prétexte qu'il ne soit pas orgueilleux. Mais quand même, je dis, dans d'autres cultures, on fait autrement et les gens ne sont pas plus orgueilleux qu'ailleurs. Hein. Donc là, on va avoir un problème dans la communication. Parce que la communication va être perçue toujours comme une attaque de qui je, contre moi, une attaque de qui je suis. Impossible à entendre. Et puis, comme elle est mauvaise, elle est agressive et mauvaise dans les accusations, hein, voilà, hein, nos parents nous accusent de beaucoup de choses. Alors, quand on est à la puberté, alors là, ils nous accusent encore plus de beaucoup de choses, de mauvaises intentions. Donc, il faut corriger ça. Dans la communication, les parents vous accusent toujours de mauvaises intentions. Et même quand vous dites vrai, ils ne vous croient pas. Ils vous soupçonnent tout le temps de mentir, hein, d'être des mauvais. Mais ça a une histoire, ça. Il faut s'en déprendre. Et ça, ça blesse. Donc on apprend à ne pas dire grand-chose, à dire peu ou à communiquer en surface. Et puis autre expérience négative qu'on fait, c'est qu'il y a le principe de la dette. Alors la dette, elle est faite de deux facettes. La dette, c'est qu'on est, on est redevable qui nous est mis au monde à vie, même si Dieu dit qu'on doit quitter, hein, d'accord, hein. Ils se sont octroyés une dette à vie qu'ils n'ont pas aux yeux du Seigneur, bon. Et deuxièmement, d'accord, comme ils sont accrochés à l'enfant idéal, d'accord, l'enfant idéal est toujours mieux que l'enfant qu'ils ont, donc l'enfant dans leur tête est toujours mieux que la réalité, et ils demandent à l'enfant d'être l'enfant idéal, ce qui est un impossible. Donc l'enfant est toujours décevant, et comme l'enfant est toujours décevant, eh bien l'enfant crée toujours une dette de la déception cette fois-ci. La problématique parentale, et qui est culturelle, c'est qu'on ne sait pas faire la distinction entre le rêve et la réalité. On n'a pas admis qu'il y a toujours un décalage entre ce qu'on voudrait et ce qu'on réalise, et que c'est normal. Ce décalage est interprété comme étant de la déficience, de la négligence, ou le fait d'être une personne mauvaise. Du coup, l'enfant idéalisé, d'accord, n'arrive pas à mourir face à l'enfant réel. L'enfant réel, on lui demande d'être l'enfant idéalisé, ce qui est un impossible. Le résultat de tout ça, c'est qu'on sanctionne très souvent les enfants, on les punit souvent, pour qu'ils deviennent les enfants idéalisés. Mais alors, si Dieu avait fait ça avec nous, on ne serait plus là, dis donc. Il avait un idéal pour nous. Pourtant, il a accepté d'être déçu sans perdre la relation. Alors, la communication est faite pour ne plus communiquer, c'est pour est faite de rejet. D'où le mot, voilà. Donc, on a besoin aussi dans nos couples de corriger ça à partir de ce que Dieu à instituer et se dire maintenant nous avons le droit de faire fonctionner les choses telles que notre Créateur l'a pensé et non pas à partir du crime contre l'humanité. Et pour terminer, j'aimerais vous lire un passage de ce livre que je vous recommande sur la communication, les bases biologiques de la communication. Il nous rappelle la base biologique et c'est intéressant. D'accord ? Pour bien communiquer, d'accord, qu'on soit homme ou femme, et particulièrement les hommes, ici je m'adresse aux hommes, c'est important de dépasser notre système de défense, de résistance. Autrement dit, pour recevoir la compassion dans la communication, on a besoin d'aller au-delà. Comme je lui ai dit, je lui dis à ces hommes, dans un premier temps, tu vas te trouver bête.
Hein, bête, tout bête. Hein,
parce que dès qu'on n'a pas... Et j'ai dit, c'est une situation d'apprentissage. Chaque fois qu'on n'a pas l'habitude de faire quelque chose, quand on le fait pour la première fois, qu'on soit homme ou femme, on se trouve ridicule. D'accord ? Bon. J'ai dit, ce sentiment d'être ridicule est lié tout simplement à la nouveauté. Et voilà comment on peut dépasser le ridicule. C'est en ayant recours à la fonction symbolique. La fonction symbolique. Pardon. Celle que Jésus nous a donnée lui-même avec la Sainte-Seine. Si, et j'aime bien prendre cet exemple-là pour les hommes comme pour les femmes, hein, d'accord ? Bon. Si je regarde la Sainte-Seine, c'est du pain et du vin. Je vais à l'épicerie du coin, j'achète du vin. Hein, et je bois du vin à table avec des amis, voilà. Du pain, j'en mange, il y en a qui en mangent tous les jours. Qu'est-ce que ça change, du pain et du vin ? Si vous voyez... Si on voit seulement le pain et le vin, alors ça n'a aucun sens. Ça n'a aucune signification. Ça ne participe en rien à la relation avec lui, au lien, à l'attachement avec lui. En revanche, quand on voit le pain et le vin qui s'inscrit dans une histoire commune, alors ça a du sens. Et c'est le sens symbolique que j'y mets qui me permet de dépasser la chose. Et je lui disais, écoute, lorsque ta femme te souhaite que tu fasses le jardin avec elle, j'ai dit, alors raconte-moi ce qu'elle aimerait bien, qui lui ferait plaisir. Bon, elle me dit, oh oui, bon, moi, c'est pas trop mon truc de couper les branches et les bassins. Oh, j'ai dit, mais oui, moi, je peux comprendre, c'est pas ton truc. Mais si tu vois seulement les branches à couper, c'est comme si tu voyais que le vin et le pain, seulement, ça n'apporte rien. Mais si tu vois en cela une façon, d'accord, de lui dire combien elle est importante pour toi, alors ça change tout. Dans la communication, c'est ça qu'on a besoin. On a besoin d'y mettre dans la communication quelque chose de symbolique. En sachant que le symbolique qu'on y met ne va pas changer, emmener l'homme à communiquer comme une femme, c'est pas le but, ni la femme à communiquer comme un homme. Simplement, quand j'écoute ma femme me parler, alors j'ai besoin de mettre la symbolique qu'elle y met, c'est elle est en train de me dire que je compte pour elle. Du coup, je vais pouvoir l'écouter et lui donner le petit conseil en passant. Ça n'empêche rien. C'est d'accord ? Bon. Et puis ma femme, c'est que lorsque, de temps en temps, je ne communique pas, d'accord ? Bon, ce n'est pas parce que je n'ai pas envie de communiquer, ok ? Mais tout simplement parce que j'ai besoin parfois, les hommes ont besoin parfois, de se retrouver avec eux-mêmes pour penser. Quand les choses les tracassent, ils aiment bien se replier sur eux-mêmes, trouver la solution. Donc, pour trouver la solution, il faut le vide. Bon. Simplement, il faut leur demander, quand tu as fini de faire le vide et que tu as trouvé la solution, ce serait bien que tu m'en parles, d'accord, quand c'est déjà fini. Seulement les hommes, quand c'est fini, c'est bien fini. Parce qu'elle va s'inquiéter pour vous. Vous n'êtes pas obligé de rentrer dans tous les détails, ok? Bon, c'est pour ça que j'ai dit, on a un point ensemble vers lequel on se met d'accord, on va avancer. Et chacun va avancer à son rythme en tenant compte de lui, mais surtout de la manière de communiquer de l'autre. C'est vers ça qu'on va avancer pour qu'on finisse par se rencontrer. Sinon, on aurait des routes parallèles. C'est vrai pour les femmes comme pour les hommes, que les femmes ont besoin d'intégrer qu'un homme n'utilise pas la communication, d'accord, pour l'échange, mais pour trouver une solution à un problème. Donc, c'est normal que quand il a un problème, hein, okay, il se réfugie dans son monde. Simplement, on va lui demander, quand il a fini, d'accord, à un moment ou à un autre, de nous en parler. Donc, le cerveau masculin possède 13% en plus de cortex scolaire chez la femme. D'accord? Mais, au sens de la réflexion, hein, c'est pour ça que les hommes ont tendance à réfléchir à leurs problèmes, hein, et puis c'est leur façon de communiquer. Bon, et ils vous donnent une solution. Bon. Mais, à côté de ça, le cerveau féminin possède 13% de plus de neuropiles, c'est-à-dire, dans ce même cortex, c'est-à-dire, ce sont les cellules spécialisées dans la communication. C'est normal. Rappelez-vous, il y avait le bébé entre les... Il y a le petit. Il faut bien qu'elle parle à son bébé pour le stimuler, pour le faire grandir. Donc, messieurs, une femme, ça parle pas trop. Elle a 13% de plus que vous dans ce domaine. D'accord? Et mesdames, hein? D'accord? D'accord? Monsieur ne parle pas, hein? Moins. Mais juste ce qu'il faut. À moins de dire au Seigneur de transformer ça dans nos cerveaux, c'est difficile. Autrement dit, l'idée ici, c'est pour vous dire qu'il faut arrêter cette bataille inutile qui nous épuise et d'être dans la compassion, l'empathie, la coopération et en même temps, j'ai envie de dire, pour l'un et l'autre, l'admiration de comment Dieu a fait les choses. On oublie souvent ce créationnel de Dieu. On oublie d'admirer. David nous le dit, je te loue parce que je suis une créature merveilleuse. Vous imaginez bien que si tout le monde était comme moi, eh ben moi j'aurais été le plus malheureux du monde. Hein. La fierté, c'est d'être unique dans la création, qu'il n'y ait personne comme nous. D'ailleurs, c'est le problème des vrais jumeaux. Et de s'en sentir comme unique. Et quand on se sent unique, on se sent important. On se considère comme un être de valeur. Et puis, chez la femme, hein, vous savez, le corps calleux. D'accord? C'est le petit tuyau qui renie les deux hémisphères. Eh bien, elle est 40% plus développée que celui des hommes. Et comme c'est plus développé, le corps calleux permet aux deux hémisphères de mieux communiquer, puisque ça sert à ça. Mais je dis toujours, je vous le dis, c'est pas une question mieux que, plus que. C'est utilitaire, me semble-t-il, parce que ça revient. Sinon, on n'est plus tous les deux à l'image et à sa ressemblance, à égalité de valeur. Égalité de rédemption, égalité de Pentecôte, et c'est tout le reste. C'est parce qu'on a oublié qu'entre deux, il y a le petit à faire grandir. Le petit, le bébé. En réalité, la mère l'utilise pour faire grandir, discuter, faire grandir, gérer le problème de les angoisses de la naissance du bébé. Donc, il faut bien que ça communique vite, parce qu'il y a lui, il y a elle, il y a les enfants, l'enfant, dont elle doit s'en occuper. Donc, c'est de l'ordre simplement fonctionnel. Ça n'a pas de valeur de plus que, moins que. C'est différent, mais d'égale valeur. C'est différent, je le dis, d'égale valeur. Il y a aussi l'activité hormonale qui va influencer la façon de réagir. Autrement dit, dans la façon dont Dieu a construit le masculin et la façon dont il a construit le féminin, eh bien, Dieu a construit l'homme, donc préfabriqué pour l'action, c'est-à-dire le faire. Et la femme pour la relation. Mais heureusement, en nous, on a les deux. Parce que c'était une exclusivité si partagée comme ça, eh bien, un père n'aurait jamais pu aimer son enfant. Eh oui. Et une femme n'aurait jamais pu rien faire. Elle serait là passivement, d'accord? En fait, c'est une différence avec une prédominance dans la communication, mais tous les deux ont les deux. Tous les deux ont les deux. C'est pour cela que tous les deux peuvent mobiliser un peu, d'accord, les choses. Quelque chose d'autre encore? On a fait une expérience intéressante. Hein? Alors, je vous ai parlé de l'ocytocine, hein? D'accord, qui est sécrétée aussi hein, pendant l'acte sexuel, d'accord, qui est le moment principal où les hommes produisent de l'ocytocine. C'est pendant l'acte sexuel, après l'orgasme. Alors, ça tombe bien, c'est pourquoi je vous ai dit, si on ne sait pas communiquer dans la sexualité, on aura du mal à communiquer ailleurs. L'ocytocine se réactive dans la sexualité, dans l'acte sexuel, pour l'homme et pour la femme, qui est l'hormone d'attachement. D'accord? Bon. Et quand commence l'acte sexualité, est-ce que vous le savez, ça? Après le premier rapport. La sexualité commence après. C'est pour ça qu'il faut en parler après. Et pas... Enfin, il faut en parler après. C'est important d'en parler après. Avant de... C'est pour cela... C'est cette hormone qui permet aussi un attachement, on s'est rendu compte que l'ocytocine permet un attachement monogame. L'augmentation de l'ocytocine permet un attachement monogame. C'est pour ça qu'on la surnomme d'ailleurs l'hormone de l'amour. Et ce rôle d'attachement du point de vue monogame a été découvert en faisant l'expérimentation sur des, bien sûr, comme ils font souvent, hein, des animaux de laboratoire monogames et polygames. Et quand on leur a injecté l'ocytocine chez des campagnols polygames, ils sont devenus monogames. Donc, en fait... L'activité hormonale, qui est l'ocytocine, qui est l'hormone d'attachement, on s'est rendu compte, quand son niveau est haut dans le couple, alors l'attachement est plus fort. Et pour cela, la communication participe à cet attachement. Mais cette communication doit garder sa différence, c'est-à-dire son altérité. Pour que ça marche, les hommes ont besoin de comprendre... que la manière de communiquer du féminin est importante pour elle et est importante pour le lien. Et la femme a besoin de comprendre que la manière dont l'homme communique, utilise la communication, c'est important pour le lien et c'est important pour lui. Voilà. OK? Bien.
Je crois que je suis comme vous. Hein. Il y a beaucoup de choses. Donc... Est-ce que je propose, c'est que vous puissiez noter disons, à chaud, hein, parce que après vous pouvez bien sûr réécouter parce que c'est enregistré. Mais vous notez les questions parce que j'ai noté une chose, c'est que tu as dit il faut y travailler.
Il faut y travailler.
C'est-à-dire que c'est pas bon,